Zadania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Rarement élection européenne aura été aussi passionnante et généré autant de surprises. À commencer par la participation, on l'a annoncée en baisse. Au final, elle était en France en hausse de 8 points supérieure à celle de 2014. Hausse de participation relevée également dans 20 des 28 pays de l'Union. N'en déplaise aux esprits chagrins, l'Europe intéresse les Européens. Comme attendu, les partis traditionnels conservateurs et sociaux-démocrates sont en déclin. Par contre, la déferlante des mouvements populistes et d'extrême droite a été, somme toute, relative. C'est le succès des libéraux et des verts, ensemble ils gagnent environ 60 sièges, qui va bouleverser la physionomie du Parlement européen, car aucune majorité ne pourrait être trouvée sans eux. La sempiternelle alliance entre le PPE, qui regroupe les droites européennes, et les sociaux-démocrates, qui durait depuis 40 ans, a pris fin dimanche dernier. Il souffle un vent nouveau sur le Parlement de Strasbourg. Sera-t-il suffisant pour orienter la marche de l'Europe dans un sens plus écologique, plus social, plus proche des Européens? Bref, le nouveau Parlement annonce-t-il un printemps européen? Je vous présente les invités qui nous auront rejoints, qui vont tenter de répondre à ces questions. Bonjour Sébastien Maillard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors. Jean-Dominique Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Votre dernier livre, La Grande Bascule, le 21e siècle européen, est sorti aux éditions de l'École de Guerre, c'est bien ça?
Absolument.
Hans Stark, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du comité des relations franco-allemandes, en abrégé ça s'appelle le CERFA, et vous dépendez de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, j'ai tout dit?
Et à la Sorbonne où je suis professeur.
Et à Bruxelles, nous rejoignons Jean-Sébastien Lefebvre. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Vous êtes le journaliste à contexte.com et contexte.com, on peut le dire, c'est le grand site de référence pour tous ceux qui s'intéressent aux affaires européennes, je l'ai bien dit?
Si on veut, oui, tout à fait.
Alors avant de commencer ce débat, j'aimerais qu'en un rapide tour de table, vous me disiez d'une phrase les uns et les autres ce que vous avez retenu de ces élections où 427 millions d'Européens étaient appelés à élire 751 députés. Et on commence par vous, Jean-Dominique Giuliani.
Un début de débats européens dans un espace public qui s'élargit, d'ailleurs grâce aux extrêmes, donc on ne l'avait pas prévu, mais on commence à débattre au-delà des frontières et en fonction de ce qui se passe en dehors des frontières nationales.
D'un mot, Sébastien Maillard.
C'est vrai que non, ce que je veux dire, c'est que ces élections européennes projettent un corps électoral européen qui, en soi, n'existe pas. Mais là, effectivement, avec cette participation très élevée, il y a, qui était la grande et belle surprise de cette élection, et vous l'avez souligné, dans 20 pays au total, c'était en hausse pour diverses raisons, et pas seulement parce que effectivement il y avait ici et là des élections locales.
Donc vous retenez la participation
la plus élevée, oui.
Hans Stark.
Oui, bonjour. Un recul à l'échelle européenne du clivage traditionnel droite-gauche. Donc une confirmation que ce qu'on a vu en France de façon massive se répand maintenant un peu partout en Europe. Donc c'est une européanisation de ce point de vue-là, c'est bien. Ensuite une montée de la prise en considération du problème climatique également à l'échelle européenne. Et puis un vote pour les libéraux qui signifie à mes yeux aussi un vote pro-européen.
Jean-Sébastien Lefebvre, d'une phrase, votre analyse de ces élections européennes?
Pour compléter ce qu'ont dit les autres invités, je dirais ce qui est intéressant de noter dans ces élections, c'est l'européanisation aussi des extrêmes. Ça veut dire que les nationalistes et l'extrême droite ne sont plus dans l'opposition frontale à l'Union et eux-mêmes en fait commencent à jouer le jeu. Ils disent plus qu'ils veulent détruire l'Union, ils veulent la réformer. Donc finalement, l'européanisation gagne même ceux qui sont contre l'UE au départ.
Alors il y a eu une mobilisation inattendue, notamment celle des jeunes. Ils n'ont pas tous voté, bien sûr, mais ils ont été plus nombreux que les 23% de jeunes qui étaient annoncés par les instituts de sondage qui devaient voter. Finalement, ils ont été plutôt autour de 40% à peu près partout en Europe. Alors on les disait peu politisés, ils se sont mobilisés pour le climat lors de grandes manifestations un peu partout en Europe et notamment en Allemagne. Mais les instituts de sondage n'ont pas vu jusqu'au dernier moment la possible traduction politique de ce mouvement, et ce sont les Verts, où ils étaient présents, qui ont été les principaux bénéficiaires. Les jeunes ont voté Vert. Est-ce que les Verts sont en phase avec le monde qui change, et est-ce que les Verts ont mieux compris leur homme en mouvement, Jean-Dominique Giuliani?
Moi, mon analyse, elle ne va pas faire plaisir aux Verts, c'est que cette poussée des Verts, elle a deux raisons. Il y a d'abord, c'est vrai, une prise en compte des questions climatiques et du réchauffement, mais aussi c'est un vote, les Verts ont profité d'un vote de report. C'est-à-dire notamment des jeunes qui ne veulent plus voter pour les partis traditionnels, voire en France pour le parti au pouvoir, parce qu'on ne vote pas pour le parti au pouvoir, surtout en période de troubles sociaux, de gilets jaunes, etc. Et donc on a voté pour des Verts qui sont sympathiques, pro-européens. Et donc je voudrais qu'ils, surtout parce que le Parlement européen est déjà très orienté défense du climat, etc., qu'ils ne prennent pas ce vote, ils n'ont gagné que 20 sièges, hein, 18 au Parlement européen.
Ils passent en gros de 50 à 70.
Oui, qu'ils ne prennent pas ce vote pour un délire pro-climatique qui pourrait recréer des clivages dont on n'a pas besoin si on veut changer progressivement de modèle économique. Je veux faire très attention, j'entends depuis dimanche dernier, des délires, ça y est, tout pour le climat, etc. Moi, je veux bien qu'on mette l'industrie automobile au rebut, qu'on mette l'industrie nucléaire, qu'on n'aime pas au Parlement européen, au rebut. Et puis, à la fin, pour faire une émission comme Carrefour de l'Europe, il nous faut pédaler pour faire de l'électricité. Donc, attention quand même.
Sébastien Maillard, je trouve effectivement cette poussée verte, elle est indéniable. Et c'est intéressant de voir qu'elle est surtout quand même vraiment à l'ouest. Hein.
Oui, car les Verts ne sont pas du tout implantés à l'est.
Non,
ils ont eu de très bons scores là où ils étaient présents, mais ils sont présents dans très peu de pays.
C'est un mouvement, on l'a vu donc en France, en Allemagne, en Belgique francophone, parce que les jeunes en Belgique flamande ont plutôt voté à l'extrême droite. Et d'ailleurs, le vote jeune s'est reporté en grande partie effectivement en France ou en Allemagne sur les Verts, mais aussi à l'extrême droite dans une certaine mesure. En revanche, effectivement, dès qu'on va plus à l'est ou plus au sud, cette percée n'est pas aussi dynamique et aussi frappante.
Elle est même inexistante en Pologne, en Roumanie.
Et la dynamique verte ne devrait pas non plus cacher celle des libéraux qui ont aussi fait ici et là de très bons scores.
Alors les libéraux, justement, Jean-Sébastien Lefebvre, ils ont été évidemment les deuxièmes grands vainqueurs avec les Verts, ou peut-être même les premiers, parce qu'ils ont environ plus une bonne quarantaine de sièges supplémentaires. Ça change un petit peu le monde. Est-ce que c'est la fin du vieux monde au Parlement européen? Quand je dis le vieux monde, je parle évidemment de cette alliance PPE et sociaux-démocrates.
Les semaines à venir vont nous le dire, mais là, ce qu'on peut déjà dire, c'est que oui, effectivement, le vieux système biparti a explosé. Alors, ce qu'on peut nuancer, c'est que depuis déjà longtemps, les libéraux servaient de réserve de voix pour les socialistes et les conservateurs quand fallait voter un texte, parce que il arrive que le PPE ne soit pas complètement uni ou que les socialistes de même. Du coup, c'est juste que ça va renforcer la place des libéraux, ça c'est sûr. Après, et de quelle manière ils vont s'insérer dans une coalition, qu'est-ce qu'ils vont obtenir, comment ils vont pouvoir influencer, ça reste encore à définir. Et surtout, la question c'est, est-ce que on va faire une coalition au Parlement européen avec les trois, libéraux, PPE, socialistes, ou est-ce qu'on va aller chercher aussi les Verts pour être vraiment sûr que la coalition soit très très large?
C'est une question auquel aujourd'hui on ne peut pas répondre, mais il y a des tractations dans les couloirs bruxellois, on va y revenir un petit peu plus tard. Hans Stark, évidemment, si les libéraux montent, si les Verts montent, en contrepartie, les conservateurs du PPE et les sociaux-démocrates connaissent un lent déclin qui était déjà entamé il y a quelques années, qui a été confirmé par cette élection européenne.
Oui, enfin pour la gauche, par exemple à l'exception des Pays-Bas, où
petite exception.
La gauche sociaux-démocrate remonte.
Alors, exception
il y a un déclin qui est clair, et que ces élections européennes sont quand même aussi très amplifiées par le résultat en Allemagne. L'Allemagne est le pays qui envoie le plus de députés au Parlement européen, premièrement.
96
députés sur 700, donc ça compte. Et en Allemagne, le SPD décline très, très fortement. Il est à 15% aujourd'hui. C'est
en
un déclin.
En troisième position.
C'est un déclin qui dure maintenant depuis quelques années. Et il est parmi les moins de 30 ans inférieur à 12%. Ce qui veut dire que les jeunes, dont on a parlé à l'instant, ne votent pas SPD. C'est un parti qui est en voie de disparition, peut-être. Et on rajoute à cela la situation des socialistes français dans bien d'autres pays, même le Labour en Grande-Bretagne. Enfin, le vote en Grande-Bretagne était
un petit peu
faussé
part,
par autre chose, évidemment. Donc ça explique déjà en soi le malaise que connaissent les sociodémocrates. Je voudrais revenir, avant de finir, au cas des Verts. Il y a Verts et Verts. Hein, donc il y a un tas de choses là derrière. Alors les Verts allemands ne veulent pas forcément qu'on pédale ici dans ce studio pour qu'il y ait une émission. Il ne faut pas oublier que les Verts allemands sont au pouvoir au Baden-Württemberg, ont été réélus et qu'ils pilotent le Land du Baden-Württemberg, qui est quand même le Land de l'automobile et de la technologie high-tech en Allemagne. Donc ce sont des gens malgré tout assez pragmatiques. Le problème en Allemagne, qui a été vraiment mis en exergue aujourd'hui par ces élections, c'est l'industrie de charbon qui emploie peu de monde, qui est un enjeu essentiellement politique, parce qu'il y a du charbon essentiellement en Saxe et en Saxe-Anhalt, et donc on veut pas que les gens là-bas ne votent trop en faveur de l'AFD. Bref, ce sont des compromissions politiques que les jeunes en Allemagne n'acceptent plus majoritairement, d'autant que l'Allemagne avoue aujourd'hui de ne pas pouvoir atteindre les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés en matière de politique climatique, ce qui est absolument inadmissible.
Alors les grands perdants, ce sont quand même les conservateurs du PPE qui perdent environ 40 sièges. Cataclysme en France avec les Républicains, mais aussi en Espagne, en Italie, et bien sûr en Allemagne, où le parti d'Angela Merkel a réalisé son plus mauvais score lors d'une élection européenne. Est-ce que, Jean-Dominique Janil, les conservateurs européens ont perdu le savoir-faire qui était le leur? Est-ce qu'ils ne sont plus en phase aujourd'hui avec cette aspiration des jeunes, parce que les jeunes n'ont pas voté conservateur?
Oui, je crois que ce sont tous les partis traditionnels qui sont à tour de rôle victimes de la même usure, des usures nationales et sur le plan européen. Donc les sociaux-démocrates, on vient de le dire, maintenant c'était la droite et le centre-droit, et je crois que c'est quelque chose de durable, parce que c'est un changement de génération, un changement de paradigme, de préoccupation, d'attente, et comment dirais-je, une sorte de reproche finalement aux élites européennes d'avoir géré la situation sans avoir anticipé un certain nombre de questions, de problématiques qui angoissent vraiment nos citoyens. Alors on sait pour l'immigration, bien qu'elle soit en recul, on découvre pour l'environnement une forte demande de politique active, proactive, mondiale, et on découvre aussi en matière de défense, de sécurité, des choses qui sont désormais possibles, comme si nos élites politiques étaient en retard sur les citoyens. Et je crois que autant nous avons réussi dans la première phase de développement de l'Union européenne, l'élargissement, le décloisonnement du continent, la valorisation du marché unique, autant nous avons trop tardé à prendre la mesure des enjeux globaux, mondiaux, dont l'environnement, dont aussi la défense, la sécurité. On voit apparaître ça dans toutes les études. Et donc, il faut que l'Europe se projette dans le monde, pas se protège.
Alors, il faut dire peut-être un mot sur... On attendait une déferlante des partis populistes et d'extrême droite. Elle ne s'est pas révélée aussi importante qu'on l'avait imaginé, même si, globalement, l'extrême droite populiste et souverainiste progresse un petit peu. Évidemment, Matteo Salvini en Italie a réussi son pari. Marine Le Pen, évidemment, aussi en France. On a évoqué le cas des Flamands. Jean-Sébastien Lefebvre, percée tout à fait relative de l'extrême droite souverainiste.
Oui, tout à fait. Et c'était à peu près les chiffres qui étaient prédits par les sondages. Ça veut dire qu'on arrive à un bloc d'à peu près 150 députés souverainistes, extrême droite, de ces mouvances. Mais encore une fois, comme je disais au tout début, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces partis n'ont plus fait campagne sur sortir de l'Union, détruire l'Union. C'est-à-dire que eux-mêmes se rendent compte que finalement, s'ils veulent pouvoir gouverner, il faut qu'ils s'adaptent à la réalité politique et structurelle qu'est l'Union européenne pour leur pays.
Alors ça, on a eu l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, en France, on l'a vu en France, mais je crois que ça s'est généralisé un peu partout en Europe, ça a été de vraies élections européennes. En tout cas, le vote a été un vrai vote européen. Globalement, les partis pro-européens se sont bien comportés, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite, libéraux ou verts. Ça dénote quand même un attachement réel des Européens à l'Europe, Sébastien Maillard.
Oui, en tout cas, peut-être inconsciemment.
Inconsciemment, mais, c'est-à-dire, oui, c'est, de la même façon que le bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir, finalement, les Européens sont Européens sans s'en rendre compte.
Encore une fois, c'est peut-être la bonne nouvelle que trahit cette participation élevée. Mais effectivement, on a vu, les gens sont allés au vote, peut-être avec la peur que l'Europe puisse disparaître ou qu'elle soit en danger. Moi, je note que le seul pays où la participation n'a pas, un des pays où la participation n'a pas du tout décollé, il a même un record d'abstention, c'est le Portugal. C'est aussi le seul pays où il n'y a pas d'extrême droite. Alors je ne sais pas si c'est
un lié, rapport de cause à effet. Si bon, il faudrait analyser plus précisément la situation du Portugal. Dans cette élection, il y a eu quand même un effet Brexit. Évidemment, la difficulté dans laquelle se trouvent les Britanniques n'envisage pas, n'est pas très très, je dis, vendeuse pour envisager de quitter l'Union européenne.
Pour rebondir sur la question que vous avez posée avant, je veux dire, cette hausse de la participation aux élections européennes ne traduit pas seulement un intérêt pour l'Europe. Cette élection européenne est aussi en grande partie, pour ne pas dire peut-être même avant tout, je ne sais pas, en tout cas en grande partie, une élection nationale dans les 27 ou 28 pays membres de l'Union européenne. Pour le Brexit, ça a été clair. Les Britanniques n'ont pas voté pour ou contre l'Europe, ils ont voté pour ou contre le Brexit. C'est tout à fait autre chose. Et en France, c'était aussi une élection autour des clivages que nous avons subis, vécus, vus durant ces derniers mois, depuis le mois de novembre dernier. Et donc, nous sommes dans une phase quand même de recomposition du paysage politique français, qui obéit à une logique qui est celle des conséquences de 2017, et non pas du contexte européen. En Allemagne, c'est un peu la même chose. On est dans un contexte électoral national, y compris régional pour l'année 2019, et donc tout ça, ça joue. Donc cette hausse de la participation, pour moi, elle est aussi le fait de la dimension nationale.
Je sens que Sébastien Maillard n'est pas d'accord.
C'est sans doute un élément qui explique, mais pour avoir un tel bond général et soudain dans beaucoup de pays, y compris en Pologne ou en Slovaquie aussi, ça s'est augmenté. Je pense qu'il y a indéniablement aussi une dimension européenne et ces élections l'ont été davantage qu'avant.
Jean-Dominique Jeanny, presque finalement, inconsciemment, les Européens ont voté quand même en grande partie pour des partis pro-européens parce que ils se sont rendu compte que l'Europe c'était le bon niveau, la bonne dimension face à Trump, face à Poutine, face à Xi Jinping, d'une manière peut-être inconsciente, mais cette civilisation européenne, ces valeurs européennes, eh ben on ne peut les protéger, on ne peut les vivre qu'en étant unis.
Non, pas inconsciemment, consciemment. L'Europe, l'appartenance à l'Union, c'est un acquis pour les peuples. C'est quelque chose que si on veut leur enlever, ils ne sont pas d'accord. Et on le voit bien, quand Marine Le Pen propose de sortir de l'euro, puis ne le propose plus. Voilà, parce que pour l'euro, l'appartenance à l'euro, pour ceux qui ont la monnaie, c'est encore plus important. 75% des citoyens européens qui ont la monnaie unique ne veulent pas en sortir. Et quand on pose la question, y compris aux Polonais, aux Hongrois, s'il y avait un référendum, voudriez-vous sortir de l'euro, la moyenne européenne, c'est 68% qui disent non. Donc, c'est un paradoxe des opinions. À la fois, l'appartenance à l'Union européenne est un acquis. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Italie. Les partis mettent en sourdine leur volonté de sortir de l'euro. Mais en même temps, il y a des attentes très fortes, des inquiétudes très fortes sur l'avenir de l'Union, sur l'immigration, sur l'environnement, sur la sécurité, sur la lutte contre le terrorisme, et aussi sur la situation économique qui demeure. Est-ce qu'on va avoir, continuer à avoir la croissance? Est-ce que les Américains et les Chinois vont nous appauvrir, etc. Donc, mais en réalité, ce paradoxe, il est celui que Jean-Sébastien Lefebvre explique, c'est-à-dire qu'il va jusqu'aux extrêmes. On n'ose plus remettre en cause l'appartenance à l'Union européenne. C'est quand même une grande victoire.
Jean-Sébastien Lefebvre, juste un mot. Il est de bon ton de dire c'est la faute à Bruxelles, les eurocrates, les technocrates de Bruxelles, mais finalement, au dernier moment, lorsqu'il s'agit de déposer un bulletin de vote, on oublie un petit peu les récriminations à l'égard de Bruxelles et on se rend compte finalement que l'Europe, c'est pas si mal que ça. C'est un peu ça, peut-être la conclusion de ce qu'on peut dire de ces élections européennes, 427 millions d'Européens invités à voter.
Ça dépend, parce que même les partis, on va dire, pro-européens, certains sont très critiques avec les politiques menées. Les Verts ont progressé un peu partout en Europe de l'Ouest, et pourtant ils sont très critiques avec les politiques menées par la Commission Juncker. Donc il y a cette idée...
On peut être critique, mais en même temps adhérer à cette idée.
C'est ça. Mais au fond, c'est l'idée poussée jusqu'au bout d'une politisation de la vie politique européenne. C'est plus juste on est pour, on est contre. C'est d'accord, on est pour, mais il y a plusieurs Europes. C'est-à-dire que là, on sort du clivage qui a été un petit peu celui de la campagne française, les nationalistes contre les progressistes, comme dit En Marche. C'est l'idée, d'accord, il y a cette Europe, qu'est-ce qu'on en fait ?
Et donc après, il y a tout un panel de politiques différentes, droite, gauche, centre, et l'électeur choisit comme il ferait au niveau national.
Qu'est-ce qu'on en fait avec qui? On va essayer de voir ça dans la deuxième partie de l'émission Carrefour de l'Europe. On fait une petite pause donc sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Кання європейське.
Кузимян тут Європа.
Раскруча Європей.
Ставродромитис Європіс.
Трефпункт Європа.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Rarement élection européenne aura été aussi passionnante et générée autant de surprises. À commencer par la participation que l'on a évoquée. On l'annonçait en baisse. Au final, elle était en France en hausse de 8 points, supérieure à celle de 2014. Hausse de la participation relevée également dans 20 des 28 pays de l'Union. N'en déplaise aux esprits chagrins, l'Europe intéresse les Européens. Comme attendu, les partis traditionnels conservateurs et sociodémocrates sont en déclin. Par contre, la déferlante des mouvements populistes de l'extrême droite a été, somme toute, très très relatif. C'est le succès des libéraux et des verts qui à eux deux gagnent environ 60-70 sièges qui va bouleverser la physionomie du Parlement européen car aucune majorité ne pourrait être trouvée sans eux. La sempiternelle alliance entre le PPE qui regroupe les droites européennes et les sociodémocrates, l'alliance qui durait depuis 40 ans, a pris fin dimanche dernier. Il souffle un vent nouveau sur le Parlement de Strasbourg. Sera-t-il suffisant pour orienter la marche de l'Europe dans un sens plus écologique, plus social, plus proche des européens. Bref, le nouveau Parlement annonce un printemps européen. On va essayer de voir ça dans la deuxième partie de Carrefour de l'Europe. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Hans Stark, secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, qui dépend de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et Jean-Sébastien Lefebvre, journaliste à contexte.com. Il est en duplex de Bruxelles. Alors, avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
En Allemagne, le mensuel Cicero a analysé les résultats de cette élection européenne. Une analyse qui finalement est guère différente de celle de la plupart des médias français.
Alors le premier constat est qu'il n'y a pas de résultat apocalyptique. Les nationalistes, les populistes, les adversaires de l'Union n'ont pas pris le pouvoir à Bruxelles comme on pouvait le craindre. Le deuxième constat est que la participation a été forte, à plus de 50%, et que les électeurs ont fortement rebattu les cartes, dit Cicero, mais sans donner à l'Union une orientation claire. Et le troisième constat est que le centre se restreint, et ce, sous deux angles. D'un côté, les deux grands partis du centre, centre-droit, centre-gauche, conservateurs du PPE et sociodémocrates SED, n'ont plus de majorité à eux seuls. Et d'autre part, les électeurs ont sanctionné la chancelière allemande et le président français, de sorte que le duo franco-allemand est plus faible que jamais, dit Cicero, l'Europe est privée de son pilier central.
Alors qu'est-ce qui pourrait en découler au niveau du fonctionnement du Parlement européen, Daniel ?
Il en ressort de nouveaux appétits de pouvoir, pour commencer. En réalité, les grands vainqueurs du scrutin, ce sont les Verts et les libéraux. Et désormais, ils veulent avoir leur mot à dire, naturellement. La commissaire à la concurrence, qui est une libérale, Margrethe Vestager, l'a dit le soir même des résultats. Le monopole du pouvoir est brisé. Conclusion, les partis établis doivent rompre le statu quo et partager le pouvoir. Pour l'Allemagne et la France, après les mauvais résultats d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, cette nouvelle donne pèse particulièrement lourd. D'un côté, le revers de la CDU, qui fait son plus mauvais score de tous les temps aux européennes, fragilise naturellement Manfred Weber, la tête de liste des conservateurs européens que soutient Merkel. De l'autre côté, l'arrivée en tête du Rassemblement national en France fragilise Emmanuel Macron et son ambition de refondation européenne, ambition qui est d'ailleurs couplée à sa volonté de faire barrage à Manfred Weber. Comme le dit Cicero, pour Emmanuel Macron, son aura de sauveur et de rénovateur de l'Union est écornée.
Merci Daniel Renon, c'est évidemment un article à lire dans le dernier numéro de Courrier International. Alors, est-ce que Emmanuel Macron est si isolé que ça, qui veut rebondir? Jean-Émile Giuliani.
Non, ce Cicéron-là, je le trouve bizarre, parce qu'en réalité, je ne partage pas du tout cette analyse. Hein, donc, on peut la faire, elle doit venir des États-Unis ou du Royaume-Uni.
Elle doit venir d'Allemagne.
Non, parce que... En réalité, non. Le centre est renforcé. Et le centre est renforcé à travers, c'est vrai, une nouvelle famille de centre, un peu hétéroclite. On va voir quelle forme elle va prendre, sous quel groupe va se constituer. Mais c'est plutôt la faille gauche et la partie droite des partis traditionnels qui s'est évaporée au profit, c'est vrai, de contestataires un peu plus extrêmes qui, au demeurant, n'arrivent pas à réussir leur pari. Donc ni la chancelière Merkel ni le président français n'en sortent affaiblis. Je ne crois pas du tout, au contraire, et je pense que la suite va le montrer dans la désignation des grands responsables européens.
Sébastien Maillard. L'ambiguïté de ces résultats, c'est qu'il y a beaucoup de gagnants, divers gagnants. On a parlé des Verts, des libéraux, mais il n'y a aussi finalement aucun vainqueur qui s'impose. Et certes, les sociaux-démocrates, les quatre-démocrates sont en perte de vitesse, mais n'empêche que c'est la CDU-CSU qui est arrivée première en Allemagne. Et en Espagne.
Affaibli, mais
c'est ça. Donc il y a des déclinants, mais qui restent toujours premiers, et il y a ceux qui montent, mais qui ne sont pas non plus pour autant les premiers. Et donc, c'est cette faiblesse d'écart entre ces quatre familles politiques qui les oblige d'une part, sans doute, à s'entendre, mais qui fait qu'encore une fois, on a beaucoup de gagnants, mais pas un seul vainqueur.
Jean-Sébastien Lefebvre, est-ce que vous diriez qu'il souffle un vent nouveau dans les couloirs du Parlement européen ?
Nouveau, peut-être pas, mais différent dans le sens où, à mon sens, il y a quand même un perdant. Au fond, c'est le PPE, puisque comparé à 2014, où le PPE était tout puissant, c'était le premier groupe du Parlement européen avec plus de 40 députés d'avance, et surtout au sein du Conseil européen, là où il y a les chefs d'État, il y avait une majorité de pays qui étaient gouvernés par le PPE. Et aujourd'hui, finalement, le PPE a perdu cette prédominance, et les autres ont compris ça, et du coup, le PPE se retrouve attaqué, assiégé, et on lui dit non. Tu n'auras pas aussi facilement qu'avant tous les postes ou tel poste, etc. Et le PPE se retrouve coincé.
Alors, effectivement, on l'a déjà expliqué, la fameuse majorité au Parlement européen entre le PPE, les conservateurs de droite et les sociaux-démocrates, donc de gauche, ne sera plus possible. La majorité, c'est 376 sièges. Ces deux groupes ne peuvent pas y prétendre. Donc, quelles sont les combinaisons possibles ? Quelle majorité avec qui, Jean-Sébastien Lefebvre ?
Alors il y a plusieurs majorités possibles sur le plan mathématique, après politiquement c'est différent, mais il semblerait, faut voir comment les groupes évoluent, parce que certains groupes vont un petit peu grossir en récupérant de nouveaux députés issus de nouveaux partis, mais par exemple une majorité socialiste PPE vert pourrait passer, mais politiquement c'est difficile
à imaginer. C'est un peu théorique.
Voilà. La plus logique c'est PPE socialiste et libéraux, mais ça fait une majorité un peu ric-rac, comme on disait au début. Donc, du coup, il faudrait rajouter un quatrième parti, d'où l'idée de mettre les Verts.
Alors justement, Pascal Canfin, qui appartient à la liste Renaissance, qui a été un élu vert il y a quelques années, mais qui est aujourd'hui dans la liste Renaissance, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron, a expliqué que ce que veulent la Renaissance, c'est-à-dire Emmanuel Macron et le groupe libéral auquel il a adhéré, c'est une coalition majoritaire sur la transition écologique. Au-delà de poste, c'est un engagement écologique. Est-ce que ça vous paraît une position solide que l'on peut tenir très longtemps ?
Alors, c'est une position qui est possible. Les Verts disent qu'ils sont prêts à entrer en coalition, à condition d'avoir un programme et des engagements clairs. En 2014, une partie des Verts avait soutenu Jean-Claude Juncker, sauf qu'une fois que Jean-Claude Juncker a été nommé à la Commission européenne, il a plus du tout parlé aux Verts et s'est plus du tout intéressé à eux. Donc, ils ont un assez mauvais souvenir de 2014. Et du coup, en 2019, ils disent « Ok, on est prêts de nouveau à voter pour la Commission européenne et le président, mais là, on veut des engagements clairs, un programme de travail détaillé et des objectifs. »
Sébastien Maillard.
Oui, je pense qu'il y a tout à fait la place maintenant, puisqu'il n'y a pas de vainqueur qui s'impose et qu'il y a différentes forces politiques en présence, mais qui partagent des valeurs communes pour forger un contrat de coalition. Alors pas un contrat de coalition à l'allemande,
c'est-à-dire
200 pages ou en tout en détail.
On discute pendant 6 mois, après on a un document de 200 pages.
Mais de s'entendre effectivement sur des grandes lignes, c'est peut-être pas seulement uniquement sur la transition écologique, qui est effectivement un point majeur, mais sur d'autres aspects. Et ça, ce serait effectivement peut-être une nouvelle façon de fonctionner, mais en même temps de consolider l'idée que ces quatre familles politiques doivent travailler ensemble pour le bien de l'Europe.
Est-ce que l'ALDE, c'est c'est-à-dire l'Alliance des libéraux démocratiques et démocrates en Europe, le groupe central, hein, le groupe des libéraux, est centriste. Est-ce qu'il est appelé à être le faiseur de roi, Jean-Dominique Giuliani?
De ce point de vue-là, il a gagné son pari, puisqu'il a la principale délégation de ce nouveau groupe à créer. Donc, il peut en revendiquer la présidence, donc un peu la direction et la tactique. Donc, il a gagné son pari, incontestablement. Ceci dit, il y a des codes au sein du Parlement européen, il y a des procédures, il y a des comportements. Et là, de ce point de vue-là, on voit très bien que, comme au Parlement français, les En Marche sont très jeunes et assez peu habitués à une mécanique parlementaire, finalement, assez bien rodée, qui a déjà ses traditions. Donc il va falloir les bousculer un petit peu, et il va falloir aussi faire attention à ne pas faire de bêtises, par exemple. Est-ce que tel ou tel groupe va vouloir s'intéresser à la composition des groupes avec lesquels il veut cohabiter ou passer un accord? Est-ce que le PPE va exiger que les Roumains sociaux-démocrates, dont le leader est en prison pour corruption, soient exclus du Parti social-démocrate? Est-ce que En Marche va exiger que Orban ne soit pas réintégré au PPE?
Au fait, il va rester, Viktor Orban, au sein du PPE, autour de cette table. Quels sont les paris, petite parenthèse dans cette émission? Est-ce qu'il va rester au PPE? Jean-Sébastien Lefebvre.
Ça dépend un peu aussi. Après, il va y avoir le Brexit. Enfin, si le Brexit a lieu, un nouveau mouvement au sein de ce Parlement, puisqu'on passera de 751 à 705. Et il y aura un départ des travaillistes, des conservateurs. Et avant tout, donc la première délégation, finalement, c'est le Brexit Party, avec 29 élus. Donc le groupe dans lequel ils sont, ça va un peu rabattre les cartes. Et peut-être que là, il y aura eu des élections d'ici là, peut-être en Pologne. On verra aussi ce qui se passe entre le PIS polonais, si effectivement ils arrivent à tirer vers eux le Fidesz d'Orban. Mais à court terme, je ne vois pas de mouvement.
Jean-Sébastien Lefebvre, qu'en dit-on à Bruxelles? Est-ce que les députés de Viktor Orban vont rester au sein du PPE, le Parti Populaire Européen?
Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur ce sujet. C'est assez calme, effectivement. Je pense qu'au moins à moyen terme, il finira par partir. Ça devient très compliqué pour le PPE de gérer Viktor Orban. Mais après, peut-être que le faire un peu plus tard, effectivement, une fois que les nominations sont passées, c'est plus simple pour lui, parce que ça lui permet encore de garder 13 élus en plus.
Et il en aura évidemment peut-être besoin. La prochaine grande réunion du Parlement européen, Jean-Sébastien, c'est le 2 juillet, c'est ça?
Oui, la première semaine de juillet à Strasbourg.
Avec l'élection du président du Parlement européen.
Tout à fait, ainsi qu'ils vont aussi voter sur la composition des commissions parlementaires et répartir tous les postes à responsabilité, les présidents de commission, les vice-présidents, etc.
Donc des tractations importantes entre aujourd'hui et le 2 juillet.
Ah oui, là le Parlement est en ébullition, dans le sens où chaque groupe se compte, réfléchit à quel poste il souhaite avoir, quels députés veulent placer où, sur quel sujet chaque député veut travailler. Donc c'est vraiment là où tout va se mettre en place pour quasiment les 5 ans à venir, même si au milieu de mandat il y aura un peu une remise à jour. Mais voilà, là c'est le grand moment où il faut que les députés soient très rapidement présents à Bruxelles pour peser dans les discussions.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, un nouveau Parlement européen, va-t-il faire naître un printemps européen? Nous sommes avec Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, avec Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, avec Hans Stark, secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, et avec Jean-Sébastien Lefebvre, correspondant à Bruxelles, du site contexte.com. Alors, il y a évidemment l'élection du président du Parlement européen, et puis l'élection que tout le monde attend, la nomination du président de la Commission européenne. Et là, c'est une toute autre affaire, ce qui ne dépend pas uniquement du Parlement, car Jean-Dominique Giuliani, le Parlement européen a son mot à dire dans la nomination du président de la Commission européenne, mais ce n'est pas sa prérogative première.
Non, c'est le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement qui doit normalement nommer le président de la Commission européenne, mais celui-ci doit être ratifié par le Parlement. Doublement, d'ailleurs. D'abord, par un vote sur le président de la Commission européenne, et ensuite, au mois d'octobre, par un vote sur l'ensemble de son collège, c'est-à-dire tous les commissaires et le président. Alors, le Parlement européen, la dernière fois, avait fait une sorte de petit coup d'État bruxellois en disant, puisque je dois le ratifier, ce seront les chefs de file des grands partis qui se seront présentés un peu partout en Europe, qui viendront automatiquement et devront être ce
les qu'on appelle... Les fameux Spitzenkandidaten.
Voilà, le candidat chef de file, et non pas le candidat pointu, dit-on en français. Et donc, et là, les chefs d'État et de gouvernement se sont laissés faire la dernière fois parce que Jean-Claude Juncker correspondait à... Il avait été Premier ministre très longtemps, président de l'Eurogroupe, etc. Et à leur choix, ils se sont laissés faire. Et cette fois-ci, on voit bien qu'ils n'ont pas envie de se laisser faire, ni Emmanuel Macron, ni d'autres, d'ailleurs.
Alors, Hans Schäuble, le candidat du parti qui domine, c'est-à-dire le PPE, s'appelle Manfred Weber. Il est c'est un Bavarois, c'est le leader de la CSU. Il était adoubé par Angela Merkel. Et en même temps... On sent bien que ses chances d'arriver, de passer la ligne d'arrivée sont très très faibles. Pourquoi ?
Ah ben ce ne sera pas lui.
Carrément.
Ce ne sera pas lui parce qu'il n'a pas de majorité parmi les chefs d'État de gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui se disent clairement qu'ils ne vont pas voter en sa faveur, parce qu'il n'a pas sans doute aussi, comme dit Macron, l'expérience nécessaire et non plus le charisme qui est sans doute jugé indispensable pour ce type de fonction. Donc, il y a un tas de réseaux aujourd'hui pour lesquels on parle aujourd'hui de Shevchovitch, on parle de Vestager, on parle même encore de Timmermans. Et de toute façon, maintenant, la situation est complètement nouvelle. Alors, pourquoi toujours répartir les postes entre la droite et la gauche, alors que les Verts montent en puissance, les libéraux également, et puis aujourd'hui aussi les femmes demandent deux des quatre grands postes des institutions européennes. Donc, de toute façon, là, aujourd'hui, tout est remis sur la table. Et donc, l'avenir européen de M. Weber est de ce point de vue-là un peu compromis.
Alors les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis mardi à Bruxelles, un dîner informel où il y avait juste les présidents, même pas leurs chers, pas leurs conseillers les plus proches. Il paraît qu'il fallait laisser son téléphone dans une pièce à côté. Alors par définition, il n'est pas sorti grand-chose de cette réunion, on n'en sait pas trop. Mais en tout cas, des positions très tranchées. Officiellement, Angela Merkel soutient toujours Manfred Weber. C'est un soutien un peu tactique, pour mieux le lâcher plus tard.
C'est un soutien forcé, parce qu'elle ne peut pas se désolidariser d'un concept qui a été quand même inventé par le PPE lui-même, et la CDU en fait partie, mais elle a toujours dit à la fois de soutenir M. Weber et tout le mal qu'elle pense du concept de Spitzenkandidat. Donc elle a une approche très dialectique, et une des deux positions va s'affirmer sans doute le moment venu.
Alors Emmanuel Macron a dit, cette histoire de Spitzenkandidat, ça ne m'intéresse pas, il faut quelqu'un qui incarne l'Europe, qui ait du charisme, pourquoi pas une femme. On parle de Margrét Vestager, actuelle commissaire européenne, qui s'est un peu illustrée, notamment en faisant plier des grands groupes du numérique américain.
C'est un nom qui circule beaucoup, effectivement, parmi d'autres, mais effectivement, cette affaire de Spitzenkandidat, c'est vraiment très bruxello-bruxellois. On parlait de la participation au début de cette émission, on peut pas on pense pas que le bon de cette participation soit dû au fait que les personnes ont mis leur bulletin en pensant je veux que Manfred Weber soit président de la commission ou que ce soit Timmermans. Et donc effectivement c'est assez artificiel et ce n'est pas prévu par les traités. Oui. C'est une c'était effectivement été fait en 2014, ce n'est pas une tradition, c'était même peut-être plutôt l'exception. Ce qui est important c'est que effectivement le président de la commission ait une majorité solide au Parlement européen et ça c'est très démocratique effectivement qu'il soit investi par le Parlement européen, mais avec aussi la confiance du Conseil européen. Et ce n'est pas du tout cette logique forcément uniquement, même dans les démocraties parlementaires nationales, que ce soit uniquement celui qui arrive en tête qui forcément devient le chef du gouvernement.
Alors on a noté qu'il y avait un petit peu de tirage. On a noté qu'il y avait un petit peu de tirage entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Dramatique ou pas?
Non, je crois pas, parce que on a eu un traité franco-allemand signé en janvier, le traité d'Aachen, qui peine à être ratifié, qui a été d'ailleurs l'objet de beaucoup de controverses, et depuis les divergences s'accumulent sur beaucoup de dossiers, que ce soit énergie Nord Stream 2, que ce soit l'accession des GAFA, que ce soit la politique commerciale avec les États-Unis,
ou la profondeur
parle aujourd'hui de la fin de la de l'entente stérile. Donc Macron en parle et de l'arrivée donc maintenant des tensions fécondes en franco-allemand, et donc là ça fait partie des tensions fécondes, et la fécondité a parfois pour inconvénient que après on ne sait pas s'il y a des quadruplés ou des quintuplés etc. Et donc là ça va vraiment laisser des traces. On est très loin de l'accord franco-allemand de 1984 lorsque Kohl et Mitterrand ont dit tous les deux on va prendre Jacques Delors. Et aujourd'hui, Merkel dit que si c'est pas un Allemand, ce sera pas un Français. Donc ça, c'est le couple franco-allemand aujourd'hui.
Alors si c'est pas un Allemand, ce sera pas un Français. Donc si c'est pas Manfred Weber, ce ne sera pas Barnier. Michel Barnier. Donc il nous reste une Danoise, éventuellement Margrethe Vestager, ou éventuellement un Néerlandais, Frans Timmermans, qui est le candidat des sociaux-démocrates Sébastien Maillard.
Peut-être qu'il ne faut pas non plus réfléchir uniquement sur ce poste-là de la Commission européenne, puisqu'on sait que vous avez dit il y a plusieurs postes à pourvoir, président de la Banque centrale européenne, président du Conseil européen, le président du Parlement européen et haut représentant pour les affaires étrangères. Donc, on peut s'attendre à ce que la négociation se fasse en pensant à l'ensemble de ces postes.
Jean-Dominique Giuliani, votre mot, puis on va revenir vers Jean-Sébastien Lefebvre aussi.
Oui, je voulais dire que ça n'a jamais été simple entre la France et l'Allemagne. Il y avait toujours, ça a toujours été des vrais débats, mais ils étaient derrière le rideau. Et là, pour la première fois, quand même, on voit des divergences assumées publiquement. Je crois que ce n'est pas bien du tout, pour être très franc, ce n'est pas bien pour l'Europe, et ce n'est pas bien pour les citoyens, parce que il y a des tas de raisons historiques, traditions, pour se fâcher, pour fâcher les peuples, pour susciter des plaisanteries, des moqueries, etc. Et donc, je crois que c'est contraire à l'esprit européen. Voilà ce que je pense. Donc, je pense qu'il y a une partie qui doit se faire de débats, même très vigoureusement, derrière les murs des chancelleries, etc. On doit de temps en temps assumer des différences, mais avec modération. Voilà ce que je pense. Et donc l'Europe, c'est pas se fâcher avec les uns ou les autres, y compris pour la France, c'est pas se fâcher avec l'Italie, c'est pas voilà. Donc l'Europe, c'est rapprocher les peuples. Donc les limites, c'est cela. Et j'espère que nos grands chefs vont garder cet esprit là pour lequel je suis moi très engagé.
Jean-Sébastien Lefebvre, est-ce que à Bruxelles, dans les couloirs du Parlement européen et dans les couloirs de la Commission, un peu partout, on perçoit ce risque d'une dégradation à travers la relation franco-allemande, d'une dégradation de la situation au sein des institutions européennes ou pas?
Pas vraiment, dans le sens où faut pas uniquement voir la divergence entre Merkel et Macron comme une divergence franco-allemande. C'est effectivement, le couple franco-allemand en général est pas en très bon état, mais c'est pas à cause de la désignation du président de la Commission européenne. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une vraie divergence politique. Ça veut dire que les premiers ministres socialistes ne veulent pas de Manfred Weber. Les premiers ministres libéraux ne veulent pas de Manfred Weber. Et donc Macron, Merkel, ils sont aussi issus d'une famille politique et ils se retrouvent dans ces positions-là. Le sujet est beaucoup plus politisé qu'auparavant. Ça veut dire que c'est pas l'Allemagne veut ça, la France veut ça, c'est le président français qui est rattaché à la famille libérale et centriste veut ça parce que les autres libéraux et centristes aussi veulent ça. Et Merkel, c'est pareil, c'est parce qu'elle est au PPE qu'elle veut Manfred Weber. C'est pas uniquement parce qu'il est allemand. Et donc la grille de lecture est différente que les fois précédentes.
Alors, on n'est pas forcément tous d'accord autour de la table. On avance dans l'émission.
Un mot. Je suis presque d'accord avec ce que vous venez de dire à l'instant, notamment sur la dimension politique de cette querelle entre Paris et Berlin qui est vraiment essentielle. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi un autre point encore. Il y a beaucoup d'Allemands dans des positions de haute responsabilité, pas pour les très grands postes, mais juste en dessous. Et là, ils dominent très très largement. Et avoir en plus un Allemand à la tête de la Commission, là, ça ferait vraiment basculer l'influence vers une politique allemande où certains pourraient parler, et on aurait du mal à dire le contraire, de domination.
Alors, d'un mot, quel est votre favori, à votre avis, qui va sortir du panier? Un petit tour rapide. Vestager, Marie-Adversaire, Sébastien Maillard.
Michel Barnier a une vraie carte à jouer aussi, puisqu'il coche beaucoup de cases entre pour plaire aux sociaux-libéraux, aux sociaux-démocrates.
Jean-Dominique Giuliani.
Reste à guerre, parce que c'est une femme et parce qu'elle a une idée de l'Europe sur la scène mondiale.
Et parce que c'est une Danoise et les Nordiques n'ont jamais eu de poste.
Absolument.
Même si le Danemark n'est pas dans la zone euro, ce qui est quand même un petit handicap.
Non, pas du tout.
Pas insurmontable.
Au contraire, ça sera un message pour que les Danois la rejoignent.
Jean-Sébastien Lefebvre, votre favori.
J'aurais bien du mal à en choisir un, tellement les jeux me paraissent ouverts, donc je ferai pas de
pas de pronostic. Vous ne vous lancez pas dans
un vrai centriste.
Alors, vraiment d'un mot, Jean-Sébastien Lefebvre, c'est vous qui allez conclure. Donc, l'impact de ce nouveau Parlement, une fois qu'on aura nommé le président de la commission du Parlement, etc., etc., est-ce qu'on aura finalement une Europe, semble-t-il, plus en phase avec la préoccupation, réchauffement climatique, transition écologique, une PAC plus écolo, peut-être une banque pour le climat, une taxe sur les importations provenance de pays qui peu regardant sur les problèmes climatiques et sociaux. Bref, est-ce qu'on aura une Europe qui protège, qui a été un des thèmes de la campagne d'Emmanuel Macron ici en France? Est-ce qu'on peut aller vers une modification des traités qui rendrait possible, par exemple, la création de grands groupes tels que Alstom, Siemens dans le ferroviaire? Bon, finalement, est-ce qu'on va, avec ce nouveau Parlement, vers une Europe plus européenne, Jean-Sébastien Lefebvre?
Alors, je ne sais pas si on aura tout d'un coup, tout ce que vous venez d'énumérer, mais vu la configuration du Parlement européen, pour faire passer des textes, effectivement, la question écologique sera plus centrale. Elle sera une préoccupation. On peut très bien aussi imaginer qu'une bonne partie du budget européen pour la période 2021-2027, qui va être un des grands points sur lesquels les députés vont devoir se prononcer dans les mois à venir, ce budget sera plus orienté transition écologique. Puisque finalement, maintenant, tout le monde en parle. Le PPE, les socialistes, les libéraux, les verts. Donc, le centre de gravité en termes de thématique a bougé. Ça, c'est sûr.
Un nouveau Parlement européen fait-il un printemps européen? C'était le titre de cette émission de Jean-Sébastien Lefebvre. Vous concluez d'un mot.
Pas tout de suite. Ça veut dire qu'il faut attendre de voir ce que ça donne vraiment. Là, je suis peut-être un peu prudent, un peu centriste.
Il faut donner le temps au Parlement.
Voilà. Le printemps ne finit pas toujours bien, dit Hans Stark. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé. Deux possibilités. RFI.fr, le site, ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact, évidemment, via Facebook et Twitter. Daniel Desescalou, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.